Bonsoir tout le monde, mardi soir 19h, c'est évidemment live. Alors ce soir, on a Georges Ditto, que vous connaissez tous évidemment. La semaine dernière, on a eu Martial Bide, on a parlé de journalisme, mais à l'ancienne avec Martial Bide, délégué général de TV Liberté. Là, on va parler de journalisme nouveau, hein, la jeunesse là, qui prend le pouvoir dans le journalisme. Alors, d'abord, vous inscrivez sur la communauté Géopolitique Profonde, vous rejoignez, voilà, marqué rejoindre en bas, vous allez dessus, vous allez avoir plein d'exclus, et donc n'hésitez pas à y aller. Donc ce soir, Georges, vraiment, je suis vraiment très content de t'avoir parce que t'es quand même assez rare sur les chaînes YouTube, hormis la tienne, bien sûr.
Ouais. Mais merci, Mike. Je rebondis à ce que tu disais en intro. Toi aussi, t'es jeune, hein, Mike. Hein. Tu disais le jeune. Ouais, non, mais non, mais
Je suis un
merci
peu plus vieux que
de.
toi quand même. Moi, je suis 81, tu vois, donc j'ai déjà passé la quarantaine. Je suis un daron.
Ouais, bah là, je suis dans la tête. Non, mais merci à toi de me recevoir ce que les gens savent pas, c'est qu'on s'est vu hier pour l'émission de d'Éric Morillo qui sortira donc demain soir. Mais oui, ravi d'être sur Géopolitique Profonde. Ouais.
Ah ben, on a eu un coup de bol pour le coup, parce que c'était pas prévu d'être.
Non, c'est
Enfin,
vrai.
si, c'est. Je veux dire, je t'ai appelé bien avant qu'on soit prévu
Oui, non, mais
pour
c'est
TVL.
vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est assez marrant pour le
Le
coup.
hasard fait bien les choses.
Alors toi, donc tu es journaliste, tu as fait
C'est ça.
Sciences Po. Comment t'es venu cette envie d'être journaliste?
Alors, en fait. Je ne pourrais pas te répondre très précisément parce que moi-même, je ne pourrais pas le dater. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis rentré à l'IEP de Lille, et puis même ensuite après mon parcours académique à l'IEP de Lyon, donc l'IEP, c'est l'Institut d'études politiques, c'est le nom en fait des Sciences Po, j'ai remarqué que les cours là-bas étaient en vrai, parce qu'on crache énormément sur l'enseignement à Sciences Po. C'est vrai que c'est très orienté politiquement. Par exemple, en histoire, on a une histoire qui est étudiée sous le prisme du marxisme, donc les oppositions entre ouvriers, prolétaires et pouvoir dominant. Mais les cours sont très intéressants et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément en face, que ce soit sur YouTube, parce que moi je suis un grand consommateur des réseaux sociaux et de YouTube notamment, je trouvais qu'il n'y avait pas ce contre-pouvoir-là. Donc j'ai commencé à m'enseigner, mais assez tard en fait, sur les propositions de valeur qu'on pouvait avoir sur YouTube et en presse écrite. Et je me suis rendu compte que, bah, typiquement, il y avait valeurs actuelles qui pouvaient correspondre sur certains points, un certain nombre de sujets à mes idées. Et donc, du coup, j'ai postulé là-bas grâce à l'entremise d'un ami à moi qui connaissait le mec qui gérait la partie vidéo, Baudouin Wisselmann, qui gérait la partie vidéo. Donc, on s'est mis en contact et puis je suis rentré à VA+. Et ensuite, derrière, j'ai fait mon parcours de journaliste, mais à la base, je voulais pas vraiment faire ça. À la base, je voulais juste, ça m'intriguait. Et pour tout te dire, j'ai entré en stage de formation à Valeurs. C'était pas, j'ai pas prévu d'y rester. Voilà.
Mais alors, du coup, quand tu as fait Sciences Po, tu t'es dit, hein, je vais mener une carrière typique Sciences Po, c'est-à-dire qu'après, je vais aller peut-être coupler avec l'ENA, des choses comme ça, ou tu t'es dit, non, moi, je fais Sciences Po pour faire du journalisme, de l'enquête, parce que en plus, tu fais du terrain,
Ouais.
ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, parce qu'on a essentiellement des gars de rédaction qui font du copier-coller AFP, quoi.
C'est vrai. Non, mais en fait, il y a plusieurs éléments. En fait, le cursus Sciences Po, académiquement parlant, c'est un cursus qui est particulièrement large, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu une continuité ultra, entre guillemets, bourgeoise du lycée. C'est-à-dire qu'on a des matières qui sont très diverses, là, de l'économie, de l'histoire, de la science politique, de la géopolitique. Mais on ne se spécialise qu'à partir de la quatrième, voire de la cinquième année à Sciences Po. On a des options de spécialisation, mais on ne se spécialise qu'à la quatrième ou à la cinquième année. Donc, moi, je savais pas quoi faire, en fait. Pour tout te dire, j'ai toujours été un élève relativement médiocre. Hein, tu vois, j'ai eu 10,4 à mon bac. Du coup, je suis entré à Sciences Po, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et effectivement, quand j'ai commencé à étudier, parce que moi, je suis un passionné à la base de géopolitique, c'est par ce biais-là que m'a été donné l'opportunité d'aller à Sciences Po parce qu'il y avait un concours qui traitait mon sujet de Sciences Po, c'était les relations sino-américaines, pardon. Donc oui, je suis entré par cette entremise-là de la géopolitique, mais c'était absolument pas pour que. Je sais que beaucoup de gens de mon âge et de ma promo feront sans doute les. Enfin, L'ENA a disparu, mais il y a une école un peu alternative à l'ENA où ils iront dans des cabinets, qu'ils soient publics ou privés, même si la sociologie et l'histoire fait que souvent les mecs qui sont à Sciences Po font du public en sortant directement en stage d'apprentissage de 5e année, ils font du public et ensuite ils restent 2, 3 ans, ils voient qu'ils gagnent pas assez d'oseille et ils pantouflent vers un domaine un peu plus privé en important des connaissances qu'ils avaient du public, ce qui d'ailleurs pose un problème majeur de la connaissance aujourd'hui, puisqu'ils connaissent tous les rouages du public pour l'utiliser contre lui. Enfin, bref, parenthèse mis à part. Mais oui, non, moi j'avais pas du tout prévu de ce parcours-là.
Donc, tu savais, tu es venu comme ça un peu. Mais est-ce que du coup, à Sciences Po, parce que l'image qu'ont les gens de l'extérieur, c'est que c'est une école qui formate les esprits. Et toi, pour le coup, tu n'as pas été formaté parce que, voilà, Sciences Po, on peut dire que
Bah,
c'est l'école un peu des fils à papa. Hein. Enfin, en
c'est
tout cas,
sûr.
voilà.
Bah, en fait, c'est pas
C'est
tellement.
l'école qui apprend le réseau, qui donne un réseau, et qui, pour le coup, formate aujourd'hui vers le progressisme. Bon. Et toi, ça ne t'est pas rentré dans la tête. Tu t'es pas dit, je vais rentrer à Sciences Po, je vais sortir comme étant un progressiste, fils à
Bah,
papa.
en fait. Il y a une petite subtilité, c'est que Sciences Po, c'est pas exactement les fils à papa. C'est-à-dire que les écoles de fils à papa, on se tournerait plus vers des écoles qui sont très onéreuses, donc plus les écoles de commerce, par exemple. Les écoles de commerce qui sont ce qu'on appelle dans le milieu des pay to win, hein, c'est-à-dire que tu payes 6 000 balles ton année, tu l'as, même si tu sais pas compter ou que tu maîtrises à peu près les couleurs, tu l'as en fait, tu as ton année. Sciences Po, c'est plus les écoles de ce que Bourdieu aurait appelé les sachants. Donc, c'est ceux qui ont un patrimoine culturel et intellectuel de par leurs parents, de par leur héritage, qui ont un patrimoine culturel et intellectuel assez conséquent. Donc, des fils de profs, des fils de journalistes, des fils de. Tout ce patrimoine-là que tu insères dans Sciences Po. Et ensuite, le cursus en lui-même, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, il est très à gauche. Mais il ne l'est pas forcément parce que l'école est à gauche, il l'est parce que. La minorité active, et c'est celle que je dénonce moi, hein, évidemment, quand je tacle Sciences Po, on pourrait penser que je tacle l'institution. En fait, c'est pas ça, je tacle plus la faiblesse d'esprit de la majorité des Sciences Po, qui sont absolument pas des mecs ultra à gauche, c'est de centre, parfois centre droit. Hein. L'IEP de Paris est réputée pour être une école qui va aller donner beaucoup de cabinets de conseil. Et le cabinet de conseil, on sait que c'est pas forcément très progressiste, mais c'est des gens qui sont de centre droit ou de centre gauche, et c'est surtout la minorité ultra active d'extrême gauche qui vient donner aux IEP et à Sciences Po une réputation abominable. Mais en soi, ils sont juste. Tu sais, par exemple, je sais que dans mon IEP à moi, il y a un syndicat qui s'appelait Sud Solidaire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du truc.
Bah, moi, je suis un ancien syndicaliste étudiant, j'étais à l'UNI,
Voilà. Donc, ouais,
donc
voilà. Donc tu vois un
pour le
peu.
coup,
Tu
je
vois
connais
un peu
bien ce monde-là.
le. Mais tu. Tu pourrais confirmer qu'ils sont pas beaucoup en soi. Ils sont juste sur une promo de 300 personnes. Tu vas avoir genre 4 mecs qui sont syndicalisés, mais ils ont tellement des revendications qui sont moralement supérieures aux nôtres. C'est-à-dire que eux militent pour le bien commun en soi. Ils te disent non, mais nous on veut que l'enseignement soit ouvert à tous. Tu peux pas t'opposer à ça parce que leurs arguments sont moralement, ils sont racinement parlant, et ça tient pas. Mais moralement parlant, ils sont supérieurs. Du coup, cette minorité-là va venir parler au nom de l'IEP, voire au nom de la jeunesse. Hein, c'est ce que Bourdieu appelait la prétention bourgeoise de parler au nom d'une génération. Bah, ces jeunes-là, ils vont monopoliser l'attention des IEP. Et on le voit quand les IEP sont bloqués, par exemple. Moi, mon IEP a été beaucoup bloqué, hein, que ce soit à Lille, à Lyon, et même des retours que j'ai eu sur Paris, l'IEP était beaucoup bloqué. On voit que c'est une minorité. Ils font évidemment appel à tous les campus aux alentours, mais ce n'est pas Sciences Po, c'est juste une minorité de Sciences Po qui bloque pour casser des couilles à la majorité, majorité qui est silencieuse, qui est terrifiée à l'idée de s'opposer à cette minorité active, parce que le précédent, quand tu t'opposes à cette minorité de Sud, c'est que tu es harcelé. Moi, je sais que quand j'étais à l'IEP de Lille, moi, je suis arrivé, en fait, j'ai fait un peu le con, c'est que je suis arrivé à Sciences Po. Moi, j'étais très candide, hein, quand je suis arrivé à Sciences Po. Moi, je venais d'un lycée, donc j'ai fait une partie de ma scolarité au lycée, en terminale, j'ai été au privé, parce que ma seconde et ma première, je les ai faites dans un lycée boursier, donc de ZEP. Et donc, je suis arrivé avec j'avais la fierté d'être français, sans être grandiloquent, tu vois, mais j'étais fier d'être français. Et en fait, plus je me suis opposé à des gens à Sciences Po, plus j'ai spécifié ma fierté d'être français. Et donc, je suis arrivé en disant, bah, moi, j'aime mon pays et je suis nationaliste. Parce que pour moi, c'est la définition qu'on peut donner aux nationalistes, c'est juste être fier de son pays. Je suis patriote nationaliste. Et très vite, j'ai été pris à partie par des mecs d'extrême gauche. Parfois, des mecs violents, on ne va pas se mentir. Les copains de Sciences Po, c'est quand même des mecs des antifas, c'est des gars qui font parfois appel à la jeune garde. C'est des milieux qui sont assez violents. Hein. C'est des antifas de Lens, des antifas de Lille 2. Enfin bref, c'est un milieu qui est assez violent. Donc oui, j'ai été harcelé et pris à partie comme étant l'espèce de facho de référence.
Alors, excuse-moi, il y avait un petit
buzz.
Ça arrive. Hein.
Tu sais,
moi, ça me parle tout de suite. Ça me rappelle des souvenirs parce que voilà, j'ai été syndicaliste étudiant pendant 6 ans à Paris 2, parce que moi je viens de Paris 2. Voilà. J'étais à l'Uni et je me rappelle ma dernière année de fac, j'ai eu mon DSS, c'était en 2006 et à l'époque, les facs étaient bloquées parce qu'il y avait la réforme du CPE. Bon, et nous,
oui, les fameuses.
On allait en bagnole faire le tour de France, débloquer les facs au Bourgif. Voilà, je dis sincèrement. On a été remercié à l'époque par Dominique de Villepin qui nous a invités à Matignon et on a eu droit à notre double page sur Paris Match parce que des jeunes soutenaient sa réforme. Enfin, des jeunes pas nombreux. Hein. Nous n'étions pas nombreux. Enfin, on soutenait pas la réforme, on voulait juste friter en fait. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau de la fac ou des grandes écoles, on est plus dans le côté on boit des coups et on regarde les filles plutôt que faire de la, en fait plutôt que de faire de la politique. Je sais pas si c'est vrai.
Bah en soi comment j'ai l'impression que quand même notre période est un peu celle de la radicalité et quand je parle de radicalité pas forcément à droite parce que les gens que j'ai rencontrés à droite n'étaient pas forcément des gens qui étaient très radicaux, mais qui étaient très sûrs de leur position. En revanche, les gens à gauche de l'échiquier politique, c'est des gens qui sont extrêmement radicaux. Donc parce que je sais, par exemple, que j'ai des professeurs de Sciences Po qui ont été bousculés physiquement par leurs étudiants. Tu vois ? Ça, c'est quand même lunaire. Tu te dis dans quelle époque on est. Et face à ça, c'est vrai qu'il y a une passivité politique du plus grand nombre de ne pas s'insurger quand il y a des comportements pareils. Et même, j'ai envie de te dire, il y a une espèce de compréhension du plus grand nombre à dire « Non, mais en vrai, ils ont raison. » Tu vois, ils bloquent la fac, ils cassent les couilles aux trois quarts des étudiants, mais ils ont raison. Tu vois, donc, et quand tu es un peu démuni, quand toi tu es intellectuellement et, opposé à ce genre de pratique, tu es un peu démuni. Tu te dis, bah non, les gars, il faut discuter, débattre. Il n'y a plus cette culture du débat. Tu vois, nous, on avait essayé de lancer un atelier de débat quand j'étais à Sciences Po. Et en fait, on s'était heurté au fait que personne ne voulait débattre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui était chaud. Donc déjà, les mecs de gauche nous prenaient pour des descendants de Mussolini, donc eux, on les écartait évidemment, mais on aurait été à grand plaisir, on aurait débattu avec eux, mais ils ne voulaient pas venir. Et les gens de droite ou de centre-droit avaient peur, en fait. Ils se disaient, mais attends, mais si je débat, on va me considérer comme truc, du coup, moi, je ne pourrais plus. Et donc, il y a cet aspect social qui te fait dire que si tu es vu avec un tel, tu ne pourras pas aller aux soirées, du coup, tu ne seras pas invité, du coup, tu vas passer ta scolarité tout seul, du coup, c'est moins risqué, tu achètes ta tranquillité en ne débattant pas et en laissant le combat politique à une minorité, qu'elle soit de droite ou de gauche, mais qui juste radicaliseront le débat, tu vois.
C'est assez bizarre parce que moi, par exemple, je me suis fait ma scolarité au niveau social au syndicat. Voilà.
Mais ouais, on fait sa sociabilité à travers la politique pour ceux qui font de la politique, mais moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'on pouvait faire les deux, avoir une sociabilité normale, quasiment dépolitisée, mais quand il y avait un débat politique, arriver à assumer ses convictions et à débattre avec des arguments et compagnie. Donc, j'ai toujours, entre guillemets, joué sur les deux tableaux. Moi, j'ai toujours eu des potes avec qui je débat pas forcément, qui connaissent mes positions, et puis maintenant, désormais, dès lors que je suis médiatisé, ils savent un peu ce que je pense, parce que je mets des vidéos sur YouTube. Mais arriver à faire la distinction des deux, là, j'ai l'impression qu'on est un peu entré dans une forme d'absolutisme de la politique, où les gens ne vivent que pour la politique, ils ne font que de la politique, ils ne pensent que par la politique. ce qui, à mon avis, est dangereux parce que du coup, dès lors que la politique bah, te déçoit, tu te retrouves et tu te dis bah, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Tu
Ben
vois?
justement, tiens, est-ce que c'est pour ça que tu te dis, tiens, je vais rentrer à VA+, je vais faire des vidéos, des reportages, mais je vais en plus, à travers ce média, faire de la politique?
Voilà, c'est ça. Bah, en fait, l'idée qu'on a eue, parce que faut savoir que on a créé avec Baudouin Wisselmann et Raphaël Deberle, qui a très bien géré la partie animation graphique. Par ailleurs, je l'embrasse. Je l'ai vu la semaine dernière, la première de Vaincre ou Mourir. On a créé VA+ dans cette idée-là, en fait, dans l'idée d'avoir un contenu qui était évidemment conservateur, puisque lié à valeurs actuelles et puisque c'était nos valeurs à nous, mais parfois aussi d'avoir un contenu qui était dépolitisé, un contenu qui était entre guillemets neutre, ce qui nous a permis par ailleurs, lorsqu'on a fait la vidéo avec le Major Gérald, ça très peu de gens le savent, mais on a été une des premières vidéos et des seules vidéos par un média conservateur à être en tendance. On était en tendance YouTube, genre je crois qu'on était 30, enfin on était comme des oufs, hein. On était 30e de tendance sur YouTube et on était comme des oufs parce que c'était la première fois qu'un média conservateur qui assume ses convictions pouvait produire un contenu qui était regardé par le plus grand nombre.
Mais ça, est-ce que ça signifie du coup que le journaliste ne peut pas être essentiellement factuel sans tendance idéologique?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est la question finalement de la neutralité du journalisme. Je pense, à titre individuel, c'est un peu malheureux de dire ça. Je pense que le journaliste et le journalisme par extension ne peut pas être neutre. C'est-à-dire que qu'on prenne quelqu'un qui se revendique comme neutre, je pense notamment à Hugo Décrypte, ou à l'AFP, ou à des instances qui voudraient se présenter au public comme des transmetteurs d'informations et pas des commentateurs, des gens qui disent juste, bah, il y a eu tel fait qui s'est passé, je vous le mets en forme pour que vous compreniez que tel fait s'est passé et vous en faites votre interprétation. Mais en fait, dès lors qu'on connaît les rouages, que ce soit interne au journalisme, c'est-à-dire les financements, c'est-à-dire le problème que beaucoup de journalistes et de youtubeurs qui tendent vers journalistes, comme je le suis, ont, c'est de ne pas être regardé. On peut sortir une information, mais si cette information ne fait pas parler d'elle, bah, on s'en fout un peu. Donc, dès lors qu'on commence à modifier l'information pour qu'elle soit regardée, donc ça, c'est toute la science de l'information, mais dès lors qu'on commence à modifier l'information pour qu'elle soit regardée comment, on la tourne un peu pour qu'elle soit audible auprès des gens, on fait de la modification d'information et du coup, on part de cette idée un peu neutre. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, tu vois. Est-ce que le journaliste peut être neutre? Non. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non plus. Il peut assumer un paradigme politique en transmettant l'information, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et moi, je préfère ça. Je préfère quelqu'un qui me dit, bah, je t'ai trouvé cette information-là qui, à mon sens, est importante parce que j'ai cette tendance politique. T'en fais ce que tu veux. Et moi, je préfère avoir cette information-là plutôt que quelqu'un qui me dise, je suis neutre et je vais te parler des informations que tu dois savoir. Tu sais, c'est un peu ce que fait BFM. BFM, les chaînes d'information, ils te sélectionnent, ou France Info fait très bien ça. Ils te sélectionnent des informations et te les présentent de manière neutre. Mais le choix même des informations n'est pas neutre. Quand on nous casse les couilles sur l'Ukraine pendant toute la campagne présidentielle et que dès lors que Macron est réélu, l'Ukraine disparaît littéralement des radars. Alors que la guerre continue, voire elle grandit en intensité, comme elle avait grandi à l'époque de 2014, à l'époque de l'attaque du Donbass par l'armée ukrainienne, on s'en battait les couilles de l'Ukraine. Elle est devenue importante parce qu'on l'a fait devenir comme un fait de normalité et elle est retombée dans l'oubli depuis. On y revient de temps en temps pour bien nous rappeler que Poutine, c'est l'enfer. Mais, tu vois, il y a cette idée quand même que ces médias-là, France Info, BFM, arrivent à te présenter une information que eux jugent importante comme une information neutre. Et ça, je trouve que c'est malheureux. Je préférerais un service public qui assume ces paradigmes politiques plutôt qu'un service public qui se veut comme les rois de la neutralité. Ça, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'en plus, ils utilisent la faiblesse des gens, puisque les gens ne sont pas éduqués à ça. Donc quand tu dis à quelqu'un, cette information-là est neutre et elle est importante, pour lui, il a un biais de positivité en disant effectivement cette information-là est neutre et importante. Tu comprends?
Mais justement, toi, tu as été en première ligne à l'époque sur l'information de la petite Lola, du meurtre de la petite Lola.
Ouais.
Quand tu as eu cette
On a
information,
co-organisé la manifestation d'ailleurs.
voilà, quand tu as eu cette information, comment tu l'as traitée?
Alors, là aussi, c'est très difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait appel à des affects émotifs qu'on ne maîtrise pas. Dans chaque société humaine, le meurtre d'un enfant, c'est l'abomination absolue, en fait, parce que c'est des lois sociales, des lois éthiques et morales. On ne peut pas tolérer en tant que société le meurtre d'un enfant. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, se dessinait autour de cette affaire Lola un fait, un symbole de ce qu'on pourrait appeler l'immigration de masse. C'est-à-dire que la fille, il me semble, de mes souvenirs, était sous le coup d'une OQTF, ou en tout cas, il y a eu des débats pour savoir est-ce qu'elle avait été notifiée de son OQTF, parce qu'en France, l'OQTF ne suffit pas. En fait, il faut notifier à personne qu'elle doit partir pour que l'OQTF soit effectif. C'est un truc un peu lunaire, mais c'est le droit pénal, hein, on ne va pas lui en vouloir. Il a été fait pour ça. Donc, soit-il que quand on a compris ce qui s'était passé, rajouter à ça la barbarie du fait, du fait meurtrier, c'est-à-dire qu'il y a le fait de tuer une personne, il y a le fait de tuer une enfant, il y a le fait de violer une enfant, il y a le fait de violer puis découper une enfant, en fait. Et ça, au niveau quasiment neurologique, il y a un truc qui se passe dans notre tête en disant waouh, là on est sur un fait important, on est sur un symbole. Soit on passe du fait divers. Du chien écrasé, qu'on appelle ça en journalisme, c'est lorsqu'il y a un chien écrasé, ça fait une brève, et c'est comme ça qu'est né le fait divers, à un symbole, parce que là, il y a tout. Quand on a compris ce qui s'est passé, en tout cas, quand j'ai compris ce qui s'est passé, je me suis dit que c'était important qu'il y ait une mobilisation. Cette mobilisation était évidemment très décevante, parce que moi, j'étais à la manifestation, bon, au-delà du fait que je me sois fait péter les genoux après la manifestation, mais la manifestation en elle-même était très décevante. Était très
Pourquoi elle est
décevante
décevante?
parce
Il n'y avait
que.
pas assez de monde?
Ben en fait, elle était décevante sur plusieurs points. Déjà, elle a été surpolitisée. Alors, c'est peut-être de notre faute parce que ceux qui s'en sont emparés du sujet étaient des gens qui étaient éminemment politiques. Je pense à moi, je pense à le Parti Reconquête, je pense à certains cadres du RN qui sont d'ailleurs finalement qui sont pas venus. Hein. C'est important de le notifier, qui auraient pu agréger derrière eux une grosse communauté parce que la communauté RN, en tout cas sur les réseaux sociaux et puis de manifestants dans la rue, a une communauté très forte. Et ils n'ont pas voulu. Bref. Elle a été surpolitisée alors qu'à mon avis, elle aurait dû rester dans ce champ de la normalité, c'est-à-dire de la dépolitisation, ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, il n'y avait pas assez de monde, quoi. C'est juste ça, en fait. Comment voulez-vous que ce genre de fait divers devienne un symbole si on n'est pas plus de 2000 à manifester pour que ça n'arrive plus, vous voyez?
Mais est-ce que là, on ne sort pas du cadre du journalisme?
Évidemment que si. Évidemment que si. Parce que le journalisme aurait voulu que l'on traite l'information sans prendre de conclusion, en fait. Parce que c'est ça, le journalisme, c'est transmettre. C'est dire une enfant de 11 ans a été décapitée et égorgée et violée par une femme, une Algérienne, sous le coup d'une OQTF. Ça, c'est de l'information telle qu'on aurait dû la prendre. Maintenant, on ne peut pas dire cette information-là sans arriver à des conclusions. De type, il y a un problème, comment? Il y a un problème, il y a un problème systémique avec les OQTF. Il y a le système même des OQTF pose problème. Donc évidemment qu'on est arrivé à des conclusions, et évidemment qu'on est sorti de notre champ du journalisme, mais parce que aussi il y avait quelque chose de très humain en fait. On avait les photos de la famille. Qui pouvaient nous rappeler tous un cousin, un ami, un proche, des mecs qui venaient du Nord-Pas-de-Calais, qui sont venus travailler sur Paris. Enfin, il y avait cette idée que c'était un proche à nous, c'était notre petite sœur. C'est pour ça qu'on est sorti un peu du cadre du journaliste pour dire, putain, mais on s'en fout d'où vous venez, mais venez à cette manifestation, tu comprends?
Mais est-ce que c'est une demande du public d'être dans un journalisme militant ou est-ce que c'est toi, tu te dis, parce que tu fais partie de la nouvelle génération de journalistes, tu te dis, on se doit aussi d'être militant. Peut-être en réaction à ce qui se fait dans les rédactions du mainstream.
Comment? En fait, j'ai envie de dire la phrase de Mbappé, hein, le journalisme, il a changé. Le journalisme, il a changé parce que, premier élément, il a été surpolitisé en face, sursubventionné et surpolitisé en face. Donc, nous qui arrivons sur le terrain du journalisme aujourd'hui, on ne peut plus juste dire les infos. Parce qu'en fait, le réel, les gens le voient. C'est-à-dire qu'ils le voient, ils le constatent, ils l'entendent. Ce réel est porté par certains candidats à l'élection présidentielle. Donc en soi, ils sont conscients du réel. Maintenant, ce qu'à mon avis manque aux gens, c'est une analyse un peu dépassionnée du réel. C'est-à-dire, tu vois, ce meurtre, on va revenir sur le meurtre de la petite Lola. Au lieu de dire, putain, c'est vraiment dégueulasse, il faut qu'ils se disent, putain, c'est vraiment dégueulasse. Par ailleurs, les OQTF, il y a un problème avec ça. Par ailleurs, il y a cette notion de barbarie. Tu vois, et ces notions-là, c'est à mon avis à nous, les nouveaux journalistes qui sont un peu militants, tu vois. Je vais pas te mentir. Tu regardes mes vidéos, tu dis, ouais, il est drôle, mais il est un peu conservateur aussi, tu vois. Donc, j'en veux pas. Mais en fait, je ne fais que. Moi, j'ai un positionnement qui est particulier. Je suis conservateur et patriote. Mais en face, que ce soit sur France Info, sur Libé ou compagnie, c'est des gens qui se veulent journalistes, mais qui sont eux aussi progressistes et militants. Donc, en soi, c'est un peu le même type de journaliste, sauf qu'il choque maintenant, parce qu'il est de droite.
Mais tu es de droite, tu es conservateur, mais est-ce que tu es partisan politiquement, c'est-à-dire au niveau étiquette? Ou...
Non.
Vas-y,
Non,
dis-moi.
non. Comment? J'ai pu, en fait, dans mon petit milieu, dans la fachosphère, on se connaît tous à peu près de près ou de loin. Donc, on connaît un tel qui bosse au RN, on connaît un tel qui bosse au. À Reconquête, moi, je suis très pote avec Stanislas Rigaud, qui est un bon pote à moi et qui a, lui, effectivement, une étiquette politique. Maintenant, je fais partie, je pense, des gens qui ne se retrouvent pas tellement dans les partis politiques actuels. Qui sont un peu, qui ont été un peu déçus par certaines réactions, certaines propositions. Moi, je suis parti du constat que on était plus de la moitié des Français à penser ou à mettre des mots similaires sur la réalité. Hein, je pense notamment au concept de grand remplacement, au concept d'insécurité, d'ensauvagement. Ça, il y a plus de la moitié des Français qui sont d'accord avec ce terme-là. Je ne comprends pas comment on ne peut pas être au pouvoir. Alors, peut-être que, tu vois, hier, on parlait avec Étienne Chouard, peut-être que c'est un truc qui est voulu par les institutions, que ces messages-là ne soient pas traduits dans une proposition de gouvernance. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être que c'est aussi un défaut de personne. Peut-être que les gens ne sont pas assez bons, peut-être que les gens ont une mauvaise stratégie, ou tu vois. Donc, dès lors qu'il y aura un candidat qui, selon moi, aura une chance de gagner, je m'afficherai volontiers avec lui, autant que le média blast d'extrême gauche s'affiche avec la NUPES ou a des connexions avec la NUPES. Moi, ça ne me dérange absolument pas d'affirmer un message politique ou en tout cas de soutenir un candidat à une élection présidentielle. Mais juste là, j'ai l'impression qu'il y a un défaut de message, il y a un défaut de clarification du message qui fait qu'on est aujourd'hui les trois quarts des Français d'accord que la justice est trop laxiste, mais à voter pour Éric Dupond-Moretti.
C'est-à-dire que toi, tu aurais une volonté d'être une sorte d'éditorialiste, en fait, aussi.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je le suis de facto, tu vois. J'éditorialise l'information.
Mais, donc, du coup, est-ce que être éditorialiste, c'est aussi une forme de journalisme?
Évidemment. Évidemment, parce que tu sais, tout à l'heure, je te le disais, dans le choix même d'une information, il y a un biais. C'est-à-dire que, à part si on me donne au hasard des sujets et que moi je répète les sujets, le journalisme neutre n'existe pas. Parce que dès lors que tu choisis un sujet, tout à l'heure, on a pris l'exemple du conflit ukrainien, c'est ça. C'est que tu ne peux pas choisir un sujet en te disant neutre. Si tu choisis un sujet, c'est que déjà que tu as un biais sur la réalité et que tu choisis ce sujet par rapport à un autre. Tu fais un choix qui est délibéré de considérer ce sujet-là comme plus important qu'un autre. Donc, tu es de facto, tu es politisé, entre guillemets, ou en tout cas, tu as fait un choix conscient. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas d'être considéré comme un éditorialiste. J'en suis pas moins un journaliste. Hein. Je ne dis pas de fausses informations. Quand je fais des enquêtes et que j'utilise mon bagage sociologique ou géopolitique, on y reviendra peut-être plus tard sur la géopolitique, je fais des enquêtes, je dis rien de faux, tu vois. Je ne trie pas les informations, je dis toutes les informations et ensuite j'en fais une analyse. Mais à la base, je dis toutes les informations, tu vois.
Mais toi, tu fais des enquêtes, tu fais par conséquent aussi du terrain, ce qui se fait de moins en moins, parce que ça, c'est une forme de journalisme aussi qui se perd.
Bien sûr.
Pourquoi justement aller vers ça et pas te dire, ah ouais, mais je pourrais dans une petite rédaction, juste commenter vite fait. Pourquoi cette volonté de faire du terrain?
Parce que je pense que J'ai fait beaucoup de terrain, notamment sur les questions d'immigration, de banlieue, de violence, d'insécurité. Et je pense que le message est très fort. Enfin, en tout cas, toi, tu ressens un message beaucoup plus fort dès lors que quelqu'un qui l'a vécu te l'a dit. Tu vois? Que si tu es dans une rédaction à l'abri du monde extérieur, tu vas peut-être dire un message qui est très juste, hein, tu as peut-être un message qui est très sain, mais comme tu n'as pas eu de contact avec le réel, comme tu n'as pas eu de prise de contact avec le réel, bah, ton message risque d'être un peu plat, de ne pas être vécu, tu vois. Et c'est moi, c'est ce que je cherchais quand je faisais mes reportages au Livre Noir. On a fait des reportages qui n'étaient pas évidents, tu vois. On allait voir les mecs dans la rue en leur demandant est-ce que l'Ukraine est nazie? Tu vois, on allait voir des hauts dignitaires russes, on leur demandait est-ce que l'Ukraine est nazie, des Ukrainiens, tu vois. On est parti voir un mec. Tu vois, je me rappelle d'un reportage qu'on a fait, qui était un reportage qui, à mon avis, qui était assez dangereux. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, le Livre Noir, le média qui était reconnu par tous comme étant d'extrême droite, fasciste, tout ce que tu veux, et on est parti voir un combattant de MMA tchétchène, tu vois. On s'est dit, on va faire du terrain, on va demander aux Tchétchènes ce qu'ils pensent d'avoir. Ce qui est assez dangereux parce que très vite, on peut dire, mais t'es raciste, hein, on prend des risques. Mais on le fait. Baudouin, de VA+, il prend des risques. Il va dans la rue, il pose des questions aux gens, il se fait chier à aller demander à un tel ce qu'il pense de tel sujet alors qu'il sait très bien qu'il peut y avoir un conflit. Ils se font souvent emmerder VA+ dans la rue. Nous, on se faisait souvent emmerder Livre Noir quand on faisait nos interventions dans la rue. Mais en fait, si tu ne te fais pas emmerder quand tu crées un sujet ou quand tu crées une vidéo, une enquête, bah quelque part, il n'y a pas beaucoup de valeur, quoi, tu vois.
Bien sûr. Mais est-ce que ça, c'est des préceptes que tu as appris à l'école, enfin à Sciences
Non.
Po, ou tu t'es dit, je vais me détacher de tout ce que j'ai appris et je vais faire les choses à ma façon?
Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai appris. En fait, je vais t'expliquer une anecdote qui est assez parlante pour t'expliquer le niveau de décalage avec le réel qu'a Sciences Po. En gros, moi, j'ai grandi à Évry, en banlieue parisienne, quartier qui était pas ouf. Enfin, tu vois, je veux dire, c'était pas le truc le plus sécure de l'histoire. Et j'ai gardé beaucoup de potes là-bas, que je revois assez souvent. Et pour mon mémoire à Sciences Po, on faisait un sujet sur la représentativité. Donc, c'est-à-dire que on essaie d'interroger l'absence ou les déficiences de représentativité du système électoral français. C'est un truc un peu technique, un peu chiant, je vais pas t'expliciter, mais tu vois qu'on avait une partie sur les banlieues. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des banlieues. Et moi, j'ai demandé à ma professeure, je lui ai dit oui, mais. Donc, je demande ça en classe, je lui ai dit oui, mais quel est le défaut de représentativité des banlieues? Et toute la classe d'un seul homme dit oui, on méprise les banlieues, ils sont victimes, on est raciste avec eux. Enfin bref, le discours progressiste classique avec les banlieues. Et je me suis dit, putain, c'est marrant, parce que ce discours qu'on tient sur les banlieues, les gens des banlieues eux-mêmes ne le tiennent pas sur eux. Et donc du coup, je suis parti, et c'est peut-être là qu'a commencé cette adhésion sur le terrain, je suis parti voir mes potes et je leur ai dit, très simplement, j'ai encore les enregistrements, peut-être que j'ai sorti un jour sur ma chaîne, mais je leur ai dit, ok les gars, on va se poser, et on s'est posé à la gare, Val-de-Seine d'ailleurs. On s'est posé et j'ai demandé à mes copains, j'étais avec un mec qui coécrivait avec moi le mémoire, enfin le mec qui était co-rédacteur, et on s'est posé et on a parlé pendant 2 heures de la perception qu'avaient les élites des banlieues et la perception qu'avaient les banlieues des élites. Évidemment, ça n'a pas trop de valeur scientifique parce qu'on pourrait dire oui, mais ce mec-là peut-être ne représente pas tout. Et les conclusions qu'on avait, c'était lunaire. C'est-à-dire qu'on avait Sciences Po, école qui forme les élites. Donc, qui forme les gens à percevoir la population, cette école-là tenait un discours qui était à des années-lumière de ce qu'étaient réellement les banlieues. À savoir, moi, mon pote me disait, bah, tu sais, nous, on avait un débat à l'époque sur la population culturelle. Et Sciences Po était très contre la population culturelle. Il ne fallait pas qu'un blanc mette des dreads ou il ne fallait pas qu'un blanc mette un boubou parce que c'était insultant pour les noirs. Il n'y a pas de noirs à Sciences Po. Hein. Donc, c'était vraiment une supposition de ce que pourraient penser les noirs sur la population culturelle. Je suis parti voir mon pote et je lui ai dit, mec, t'en penses quoi de la population culturelle? Il ne savait même pas ce que c'était. En fait, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et quand je lui dis, mais mec, attends, toi, le président idéal, il ferait quoi? Et il me disait, bah mec, moi, le président idéal, c'est un homme fort, c'est un exécutif fort, c'est une police qui est forte. On en a marre des enculés qui cassent tout dans les banlieues. On veut que la police mette des savates aux gars qui volent. Enfin, c'était un discours qui n'avait rien à voir, en fait, avec ce qu'on essaye de faire dire. Et de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur la perception du terrain qu'ont les élites, tu vois.
Donc, toi, mine de rien, tu as 24 ans, tu as quand même un parcours important parce que tu as été à VA+, tu as même créé, tu as cofondé VA+. Il faut dire les choses
Ouais,
parce
c'est ça.
qu'avant, Valeurs Actuelles n'avait pas vraiment de chaîne, enfin, ils avaient quelque chose, mais ce n'était pas génial. Donc, vous avez créé un style. Ben justement, comment on crée ce nouveau style de journalisme sur YouTube? Parce que ce n'est pas évident que VA+ puisse avoir comme ça 300 000 abonnés.
Alors, pour parler de la jeunesse de VA+, juste, je passerai un big up à Baudouin, Geoffroy et Raphaël, avec qui on a créé VA+. Baudouin parce qu'il était avec moi et qu'on a pensé les émissions ensemble, Raphaël parce qu'il a fait l'ADA, et Geoffroy surtout qui nous a permis de faire ça, parce que s'il n'y avait pas le mec de Valeurs Actuelles qui nous disait banco sur ce projet-là, il n'aurait jamais vu le jour.
Ah,
Non,
Geoffroy
en
le
fait,
jeune, hein, je précise pour ceux. Voilà.
oui, Geoffroy le jeune, oui, pardon.
Voilà.
Non, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que à l'époque où on crée VA+, on regarde un peu ce que le persona lambda de droite, ou en tout cas conservateur, ou en tout cas voire un peu anti-woke, mais pas forcément de droite avec des aspirations souverainistes ou quoi, juste un mec qui est agacé par la propagande qu'on peut voir actuellement. Qu'est-ce que ce mec-là a comme miroir de sa propre pensée politique sur YouTube? Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un décalage, c'est-à-dire qu'il y avait une proposition de contenu, je parle notamment de TV Liberté qui était… À l'époque, c'était à 3 ans, qui était très puissante sur Internet. Il y avait CNews, évidemment. Mais hormis ça, il n'y avait pas de contenu pour jeunes, entre guillemets,
Et même
avec
TV
des…
Liberté, on ne
Ouais,
peut
et
pas
même
dire que
TV
c'est pour
Liberté.
jeunes.
Non, bah c'est pour ça que je te dis, il n'y avait pas de contenu dédié aux jeunes, c'est-à-dire avec des contenus qui sont courts, parce que malheureusement, les gens écoutent de moins en moins ou de moins en moins longtemps, avec de moins en moins d'attention. Ça, c'est un paramètre aussi qu'il faut prendre en compte quand tu crées un média. C'est pour ça que nos émissions à la base étaient assez courtes, hein. C'était pas plus de 6 minutes parce que le temps d'attention des jeunes notamment est assez restreint, on pourrait y revenir. Donc il fallait créer un message, il fallait transmettre un message politique conservateur avec la forme, et ça c'est très important, avec la forme que prennent les contenus actuels sur YouTube, donc c'est-à-dire des interviews qui sont courtes, des interviews qui sont directes. Des interviews qui créent un semblant de proximité avec la personne, des vidéos où on débunk des concepts très courts. En fait, c'était l'idée de donner des arguments rhétoriques à des jeunes qui n'en avaient pas, ou en tout cas qui ne se retrouvaient pas sur les contenus que prenaient qui prenaient actuellement sur, enfin qui prenaient à l'époque sur Internet, notamment TV Liberté ou CNews. Et c'est comme ça qu'on a créé le truc, c'est qu'on s'est dit, on a pensé, on s'est dit, on a grandi avec YouTube. Et tous les contenus progressistes qui, malgré leur progressisme, ont une forme qui est absolument dingue. La DA de Combini ou la DA de Brut ou la DA de certains youtubeurs est absolument dingue et très propre. Donc, on a grandi avec ça. En revanche, on n'a pas le même message. Comment on fait pour allier les deux? Et c'est de là que nous est venue l'idée de VA+, hein, c'était Valeurs Actuelles, mais plus, on allait au-delà, on allait chercher un peu au-delà, on allait au-delà de la base. Éditorial de Valeurs Actuelles, donc des gens qui sont assez un peu âgés, hein, assez âgés, qui ont un peu d'argent. Nous, on allait vraiment se tourner vers les jeunes, et à mon avis, c'est plutôt un pari qu'on a réussi, puisque là, VA+, c'est à, je crois, 360 000 abonnés, donc ça veut dire que cette demande, elle existait, tu vois.
Est-ce que tu t'es dit, on va s'inspirer par exemple de youtubeurs droitards, conservateurs un peu connus, genre le Raptor, et on va en faire de l'information, mais
Mais évidemment,
type journalisme?
évidemment, l'impact qu'a eu le Raptor sur la création de contenu, dans la forme notamment, c'est lui qui a popularisé les démontages très rapides, hein, des montages qu'il ne faut pas regarder si tu es épileptique. Bah, ces montages-là, on a pris aussi un peu de la punchline, entre guillemets, de Hugo, de Papacito. En fait, on a pris un peu toutes nos inspirations à nous pour en faire un média qui pourrait parler au plus grand nombre.
Mais alors, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, si tu as moins de 25 ans, il faut forcément du cut et du
Non.
montage?
Non, en fait, je vois, et c'est aussi une des pensées que j'ai eues quand j'ai créé VA+, je trouvais que ça pouvait être un peu limitant de projeter sur la jeunesse cette idée-là, à savoir, il faut un contenu très rapide. très cutée et compagnie. Sauf que y a un esprit concurrentiel en fait quand tu es sur YouTube. C'est-à-dire que tu mets en concurrence en fait inconsciemment, ça c'est des études neurologiques, parce que du coup maintenant j'ai aussi un bagage en neurologie, j'ai fait du neuromarketing. Tu mets en concurrence beaucoup de contenu quand tu es sur YouTube, c'est-à-dire que tu vois une miniature, tu te dis je vais peut-être la choisir ou je vais peut-être regarder celle-là. Enfin bref, tu fais une hiérarchie avec l'algorithme qui favorise certaines recommandations, mais tu fais une hiérarchie de ce que tu vas regarder. Et effectivement, le moins risqué, c'était de faire un contenu court, cuté, assez direct pour le spectateur lambda. Mais c'est pour ça que très rapidement, lorsqu'on a créé VA+, on a aussi mis en place des grands entretiens, des trucs beaucoup plus longs, des trucs fleuves, parce qu'il y a aussi une demande pour ça. Et puis parfois, tu peux être dans un mood où tu as envie de regarder un contenu très rapide, ou tu peux être dans un mood où tu veux regarder un truc assez long, écouter ça, tu fais ta vaisselle, et tu écoutes un mec qui parle de la géopolitique. Ça peut aussi arriver, mais y a une double demande. C'est certain.
Mais est-ce que c'est aussi TikTok, peut-être même Instagram, qui ont fait, qui ont imposé ce format qu'on a, par exemple, la géopolitique profonde, on met
Ouais.
peut-être une
Faites des
dizaine de
TikTok.
shorts par jour, pour le coup, on est obligé. Et par exemple, l'entretien qu'on va avoir va être aussi vachement shorté et vachement monté. Est-ce que voilà, est-ce que c'est aussi l'influence de de TikTok et de ces réseaux sociaux? Qui ont fait ça en fait, qui ont imposé ce format à cette jeunesse.
C'est un peu c'est la question qu'on peut se poser. C'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est les formats courts qui créent cette demande de format court, ou c'est juste les gens qui, de par leur activité, de par le fait que parfois la vie peut être un peu stressante, que t'es pas envie de te casser les couilles à regarder 45 minutes d'entretien et que tu veux juste rire maintenant tout de suite. Ça, c'est un peu des deux. Je pense que il y a une responsabilité évidente des créateurs d'Instagram et de TikTok. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que la plateforme TikTok n'a pas les mêmes algorithmes en Occident qu'en Chine, le pays dont elle est originaire. C'est-à-dire qu'en Chine, les contenus sont beaucoup plus éducatifs, beaucoup moins portés sur la sexualité qu'ils le sont en Occident. Enfin, tu sais qu'il y a effectivement une responsabilité très importante parce qu'on est en train de créer des gens qui ne pourront s'informer que via des shorts de 30 secondes. Ce qui est complètement lunaire pour l'esprit humain, qui ne peut pas avoir une réalité sur les choses en moins de 30, en 30 secondes. C'est impossible. Pour que l'humain comprenne les choses, il faut qu'il ait une vue d'ensemble. La vue d'ensemble nécessite au moins une demi-heure, trois quarts d'heure sur un sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, on doit faire avec les deux. C'est-à-dire qu'on doit faire à la fois de l'information. C'est aussi la problématique qu'ont beaucoup de journalistes, hein, c'est de faire l'information, mais il faut que cette information, elle soit vue. Parce qu'il y a des logiques financières derrière. C'est la fin du métier de journaliste, en fait. C'est la fin du métier. C'est la fin d'une forme de journalisme qui était l'enquête de terrain. Ça prenait 6-7 mois. C'était très long. Et tu avais 8 pages très précises sur un sujet. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que ça demanderait beaucoup trop d'argent. Alors que tu fais un short sur un tel qui a frappé sa femme et dont tu as la vidéo, tu fais un short, tu fais autant d'argent. Tu vois?
C'est
Donc,
sûr,
c'est des logiques derrière qui sont financières, je pense.
mais tu as parlé au début là de parce qu'on était hier, voilà, tu l'as dit au début, on était hier ensemble sur TVL. Est-ce que par exemple l'émission qui sera diffusée donc mercredi 21h sur TVL, est-ce que un public jeune pourrait être capté par ce type d'émission?
Eh ben, c'est justement la question que je me pose. Moi, je pense sincèrement que non. Mais ça tient pas tellement au fait que l'émission, alors les gens la découvriront au moment venu, mais ça tient pas forcément au fait que l'émission soit longue, mais c'est peut-être qu'elle est un peu technique. Elle est un peu technique. Mais pour revenir sur le débat plus global, est-ce que les gens, et de manière générale les jeunes, peuvent être intéressés par un contenu très long? Statistiquement, non. Statistiquement, les jeunes vont préférer un contenu qui est plus court et qui est beaucoup plus divertissant qu'un contenu éducatif, parce qu'il faut pas oublier que les contenus très longs, c'est des contenus qui sont très éducatifs, avec beaucoup de savoir à accumuler. Je regardais l'autre jour un entretien sur une chaîne suisse dont j'ai oublié le nom, qui traitait de la géopolitique ukrainienne. C'est 2 heures où tu n'as que des informations, donc c'est fatigant aussi. Et peut-être que ça ne correspond pas à l'attente qu'a le jeune consommateur lorsqu'il va sur une plateforme de divertissement. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il faudrait allier ce côté divertissement et information, peut-être pas aussi long que 1 heure et demie comme a duré l'émission hier.
Mais alors, est-ce qu'il faut faire pour par exemple capter un jeune
Ouais.
vers son camp, voilà, vers la droite, on va dire, voilà. Et est-ce qu'il faut faire de l'infotainment à la quotidien, mais version droitard? Est-ce que c'est ça le format qu'il
C'est
souhaite?
un. C'est. En vrai, et pourtant, ça fait 3 ans que je fais ça, hein, mais je ne pourrais pas te répondre parce que ça dépend tellement de paramètres, ça dépend du sujet abordé, ça dépend de l'ambiance que tu crées. Tu vois, si tu crées un podcast où tu parles avec un pote pendant 2 heures de plein de sujets, pas forcément politiques, mais de sujets personnels, si tu parles de ça pendant 2 heures, tu peux avoir beaucoup d'écoute parce que les gens vont se retrouver, vont avoir un côté très familier dans l'écoute du truc. Tu peux créer une vidéo de 30 minutes de 30 secondes qui marche pas parce que les gens s'en foutent du sujet. C'est un savant mélange de beaucoup de paramètres qui fait qu'une vidéo marche et que par définition, un sujet est popularisé.
Et voilà. Après VA+, tu es allé donc sur Livre Noir.
C'est
Qu'est-ce qui
ça.
a changé entre les deux formats? Ou
En
est-ce que
fait,
c'était une continuité de VA+, Livre Noir?
c'était un peu une forme de continuité. Alors déjà, dans mon parcours personnel, moi j'étais journaliste à VA+, et j'ai été journaliste puis directeur de la rédaction au Livre Noir. Donc ce n'est pas les mêmes responsabilités non plus en fait. Et puis Livre Noir a été sur un autre segment qui marchait parfaitement aussi, hein, mais c'était un segment d'entretien fleuve. Le fauteuil, ça durait 1 heure, 1 heure et demie, et les mecs recevaient, que ce soit l'ambassadeur chinois, Laurent Oberton, c'était des gens qui étaient foncièrement très intéressants, mais c'était un format qui était beaucoup plus long, alors que moi j'étais plus habitué sur VA+ à faire des formats un peu courts, des revues d'actualité comme ce que je fais actuellement sur ma chaîne. Donc c'était pas le même format, donc c'est pas la même préparation non plus. J'ai essayé aussi j'ai même popularisé d'autres formats sur le Livre Noir, en reprenant certains codes que j'avais pu avoir sur VA+, notamment les micro-trottoirs ou les vidéos face cam où tu parles d'un sujet après l'avoir étudié, après demander leur avis au principal intéressé. J'ai fait notamment une enquête sur la prostitution dans Paris qui m'a demandé beaucoup de temps de préparation et de production parce que c'est des sujets qui sont longs, il faut que tu prennes en cause plein de paramètres, il faut que tu ailles au Bois de Boulogne, il faut que tu ailles à Pigalle, il faut que tu ailles à Belleville. Enfin, bref, c'est un peu plus difficile, mais oui. J'ai repris les codes qui avaient marché à VA+ et je les ai un peu retransmis sur le Livre Noir, mais qui avaient déjà été eux-mêmes popularisés par d'autres comme Jordan Florentin, Maud Coffleur. Enfin, j'ai rien inventé au Livre Noir.
Mais là, du coup, t'as changé de métier parce que directeur de la rédaction, tu dois trouver les sujets, tu dois valider les sujets, tu dois, t'as aussi un côté management. Là,
Bien
c'est un
sûr.
autre métier que t'as découvert.
Ah, complètement. C'est complètement un autre métier et j'irais même jusqu'à te dire que c'est moins agréable. C'est moins agréable parce que quand tu es journaliste, en fait, il y a un côté ça va faire très candide de dire ça, mais il y a un côté pur, quoi. Tu as un sujet et pendant une semaine ou deux, tu vas poncer ton sujet, tu vas avoir toutes les sources, les pour, les contre, les anti, les mecs qui connaissent pas, pourquoi les mecs connaissent pas ce sujet. Enfin, tu fais vraiment l'ensemble du sujet, tu vis dans une bulle en fait pendant une semaine ou deux autour d'un sujet. Moi, je sais que j'avais bossé sur VA+, j'avais bossé sur AJ+, sur la création du média AJ+, et pendant 2 semaines, j'avais vraiment fait que ça, quoi. J'avais vu comment s'était opérée la métamorphose d'Al Jazeera, pourquoi Al Jazeera avait choisi ce concept-là, pourquoi Al Jazeera avait choisi le progressisme comme manière d'entrer dans l'Occident. Bref, j'avais vraiment poncé le sujet pendant 2 semaines, que lorsque tu es directeur de la rédaction, tu as cette idée que tu dois surtout gérer les équipes qui font ça. Donc déjà, tu as un peu le seum parce qu'ils font ce que tu voudrais faire, tu vois. Mais tu dois gérer ça, tu as des conflits en interne, tu te dis, ah non, bon, bah écoute, mets-toi là pour éviter d'être avec lui que tu n'aimes pas. Enfin, tu vois, tu fais plus du management. Moi, je ne sais pas très bien faire ça, en fait, je ne suis pas très bon là-dedans. Donc ce n'est pas le même métier, ouais, effectivement. Ouais.
Mais est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire? Parce que tu as quand même été rédacteur en chef à 24 ans, c'est quand même pas rien, c'est quand même assez jeune pour le coup. Mais est-ce que pour avoir goûté à ça, c'est quelque chose que tu as envie de faire, peut-être à terme?
Bah, peut-être à terme, ouais, peut-être créer un média ou créer une structure, en tout cas, pas forcément un média, mais une structure qui produise un média, qui produise des contenus divertissants, des sketchs, des youtubeurs. Enfin, ouais, c'est un sujet sur lequel je bosse en ce moment, tu vois. Je suis en train de créer une structure à côté, justement pour me permettre de faire les deux, quoi, de faire et du journalisme d'enquête. Je sais que récemment, j'ai sorti une grosse vidéo sur la Tchétchénie, par exemple, qui m'a demandé beaucoup de réflexion. Mais tu vois, continuer à faire ces vidéos d'enquête et parallèlement à ça, essayer de lancer d'autres mecs qui seraient chauds de faire ça, tu vois. Un peu sur le modèle de Webedia ou sur le modèle du Golden Moustache. Donc oui, c'est un sujet sur lequel je me penche, mais j'aimerais bien décider des prérogatives que j'ai ou que je m'arroge avant de créer le média, plutôt que d'arriver dans un média en me disant, bah, tu vas faire ça, tu vois.
Mais toi aujourd'hui, tu te sens plus youtubeur ou journaliste ou les deux? Ou est-ce que les deux sont indissociables en fait?
Je pense, bah déjà, sur mon ressenti à moi, je pense que je suis les deux. Je pense que je suis les deux. Je suis à la fois journaliste parce que j'ai ma carte de presse et que les vidéos que je fais sont fatalement du journalisme. Hein. Quand j'ai interrogé pour ma vidéo sur la Tchétchénie, j'ai interrogé le mec, le représentant de la République d'Ichkéry qui est en France. Donc c'est pour te dire, je me fais chier un peu à aller parler à ce sujet-là pour avoir une vision un peu d'ensemble. Donc oui, je fais du journalisme, mais à côté de ça, le journalisme ayant muté lui-même, il y a quasiment un attachement à la personne, pas tellement au message. Et ça, c'est notamment popularisé avec des réseaux sociaux qui sont très personnifiés, comme Instagram. Instagram, tu fais pas que de la promo, tu montres ta vie. En tout cas, tu montres une fenêtre sur ta vie, mais tu montres ta vie, tu montres ta tête. Tu dis aux gens où t'es. Donc l'influenceur côtoie le journaliste quand t'es dans ce milieu. Donc je pense que je suis un peu des deux. Je suis un peu un journaliste, un peu influenceur.
Voilà, journaliste et influenceur, c'est-à-dire
Voilà.
qu'aujourd'hui, pour être un journaliste costaud, tu es obligé d'allier les deux, tu es obligé de montrer un peu chez toi, de faire, d'avoir ce contenant, en fait, c'est ça?
Je pense. Alors, c'est peut-être un peu malheureux aussi de penser comme ça, parce qu'on pourrait se dire, ben non, juste tu fais du journalisme et les gens t'aiment pour ton journalisme. Mais j'ai remarqué que la proximité, alors, il y a Boris Cyrulnik qui disait que le 21e siècle, avec les réseaux sociaux, c'est l'ère de la proximité dominante. C'est-à-dire que on a besoin de se sentir proche des gens, et c'est ce que je remarque quand les gens me reconnaissent dans la rue, ça peut m'arriver de temps en temps. Ils me remercient pour mon taf, évidemment, mais ils me considèrent comme leur pote, en fait. Tu vois, ce qui n'est pas le cas quand tu croises bon, j'allais prendre Patrick Cohen comme journaliste de référence, tu m'excuseras, mais quand tu croises un autre journaliste, tu lui dis merci pour ton taf, c'est très cool, j'adore ton enquête sur un tel sujet. Mais nous, c'est différent, nous, on est plus perçus comme des amis qui se sont mis en politique, tu vois.
Donc ça veut dire qu'en fait, le journaliste de demain doit être médiatique. C'est-à-dire
Je
que
pense.
la génération dont tu fais partie, tu ne pourrais pas être, par exemple, journaliste de presse écrite.
Bah, je sais qu'à Valeur, il y avait beaucoup de potes à moi qui l'étaient. Moi, je ne pense pas que je pourrais l'être. Parce que je pense que le message est plus fort lorsqu'il est incarné. Et quelle incarnation autre que l'incarnation physique? En tout cas, c'est mon avis. Hein. Beaucoup de gens pourront me dire, mais non, quand un article est très bien écrit, on peut reconnaître la patte d'un journaliste. Peut-être, certainement. Mais je pense que, à mon sens, le message est plus performant et il a un taux de pénétration plus fort lorsqu'il est incarné physiquement par une personne qui le dit. C'est le pari qu'on avait pris avec Baudouin, c'est d'incarner, parce qu'on aurait très bien pu aussi faire ce que font Brut. Enfin, Brut avant que Charles Villa émerge, mais c'est-à-dire désincarner le message. C'est-à-dire qu'il y a des images et il y a un écriteau. Bon. Mais nous, on a pris le pari de dire que le message est plus fort lorsqu'il est incarné parce qu'on sent une proximité avec la personne, qui plus est lorsque le journaliste en question utilise des codes de langage qui font que le message est personnifié. Quand il y a des vannes, quand il y a un montage qui te fait rire, bah, tu te dis, bah, tu retiens plus le message parce que le message est un peu personnifié, tu as l'impression qu'il s'adresse à toi. Donc, je pense qu'on est plus performant dans le métier de journaliste lorsqu'on allie ça avec l'idée d'influenceur.
Il n'y a pas un côté moins profond, peut-être.
Peut-être.
Une envie de reconnaissance aussi. Est-ce que,
Ben,
voilà, peut-être est-ce que la
non,
nouvelle
mais
génération.
évidemment, c'est évidemment. Évidemment, mais après, ça reviendrait peut-être à se renseigner sur l'enfance de l'influenceur ou du journaliste en question, mais évidemment qu'il y a un besoin de reconnaissance. Évidemment, il n'est pas normal d'avoir une aspiration à être connu. Il est normal de vouloir être reconnu, c'est-à-dire de vouloir être reconnu à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on fait un fait. C'est le principe même du héros, de la vertu du héros, c'est de faire un fait et d'être reconnu à sa juste valeur. Ça, c'est normal. Maintenant, nous, on est dans une génération, et moi particulièrement, hein, qui ont grandi avec l'idée que la simple exposition est une valeur en soi. C'est-à-dire que le fait d'être exposé médiatiquement, ça veut dire que tu es une bonne personne. C'est dans l'inconscient, ça veut dire que tu es une bonne personne. Donc évidemment qu'il y a cette idée il y a peut-être un moi profond qui voudrait être connu, reconnu des gens. Il y aurait plein d'explications à ça, hein. Peut-être que je l'ai pas été assez quand j'étais petit, ou peut-être que j'ai voulu être reconnu très vite, peut-être que je voulais me démarquer très vite, et que j'ai choisi la voie du journaliste pour être identifié très vite. Peut-être aussi, peut-être que j'ai aussi peur d'être oublié. Tu vois, c'est aussi une raison. Moi, je me pose beaucoup la question. Je pourrais très bien faire autre chose ou faire une autre forme de journalisme qui me mettrait moins, qui m'exposerait moins. Mais peut-être que j'en ai besoin aussi de cette exposition-là, tu vois. Parce que je pense que c'est la réflexion qu'on se fait beaucoup avec d'autres amis influenceurs, c'est que, notamment des influenceurs identitaires ou des influenceurs entre guillemets conservateurs ou souverainistes, c'est que, en fait, on prend des risques en s'exposant. Bon, moi, ça a été assez imagé quand je me suis fait frapper par des antifas, mais on prend des risques même au quotidien parce que dans notre cercle social aussi, ça jacte. Quand un mec voit que tu t'es opposé ouvertement à l'immigration sur une chaîne télé, ça peut parler. Tu n'es pas invité aux soirées, tu es mal regardé, on se pose des questions. Oh, mais c'est qui lui a? C'est le facho qui fait des vidéos sur YouTube. Donc évidemment, on fait un sacrifice en montrant sa tête. Donc peut-être qu'inconsciemment, on a envie que la contrepartie de ce sacrifice, ce soit la reconnaissance par nos pairs, peut-être.
Parce que le fait de te montrer, d'avoir un discours quand même différent que 90% des journalistes, en tout cas de ta génération, ça c'est sûr, peut-être même 99%, c'est un risque que tu prends sur ta vie personnelle aussi.
Évidemment. Évidemment, qui plus est, parce que moi, je suis dans un milieu qui est assez marqué à gauche. D'ailleurs, c'est peut-être d'où vient mon style un peu streetwear, tu vois. C'est le fait que je ne suis pas d'un milieu catholique traditionnel, mes parents sont de gauche, mes sœurs sont de gauche, mes potes sont de gauche, enfin j'ai assez peu de potes à droite en tant que tel. Ouais, c'est un risque social que tu prends en t'affichant comme quelqu'un de droite. C'est un risque, je te dis, parce qu'en plus on vit à un âge qui est très formateur, parce que la période... quand tu sors de l'adolescence, donc une adolescence où tu es en opposition permanente à tes parents et à une forme de cercle social parental, donc les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, ce que tu veux, quand tu sors de l'adolescence et que tu vas vers les 20, 25 ans, parce que l'homme est un être social, tu as une pression sociale qui est très forte. C'est-à-dire qu'un mec de 16 ans ou de 17 ans, en tout cas je l'ai expérimenté comme tel, un mec de 16 ans ou de 17 ans qui n'est pas invité à une soirée où tout le monde est invité, c'est un traumatisme pour lui. Mais c'est un vrai traumatisme, hein. C'est-à-dire qu'il y a, ça peut vraiment engendrer des décisions sur sa vie future qui sont lunaires. C'est-à-dire que si on n'invite pas quelqu'un à une soirée parce que, admettons qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, il peut vraiment se dire, je dois choisir entre ma vie sociale et mes idées politiques, ce qui est très fort en fait, hein, ce qui est un vrai sacrifice que tu fais pour l'un ou pour l'autre. Donc évidemment que moi, quand je m'affiche sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou même sur le Valeur Actuelle ou sur d'autres plateaux comme j'ai pu le faire, évidemment que je prends le risque d'être tout seul en fait. Parce que moi, je n'aurais pas mes potes que je retrouve au bar qui sont de droite et qui pensent comme moi. Moi, je peux très bien, et ça a pu m'arriver aussi, ne pas
Et ça
être
t'est
invité à
arrivé
des soirées.
justement. Et
Oui, ça m'est arrivé.
est-ce que c'est ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, oh là là, je suis pas invité à telle soirée.
Ouais, bien sûr. Mais même, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que tu te moi c'était la question vraiment que je me suis posée quand j'ai commencé à être un peu médiatisé à Valeur, et c'est la question que j'ai aussi, j'en ai beaucoup discuté avec Geoffroy à l'époque où j'étais médiatisé, parce que lui aussi a été médiatisé très jeune. Moi quand j'ai commencé à être médiatisé j'avais 20, 21 ans, tu vois, 22 ans. Donc en fait c'est assez jeune, hein, t'es pas formé politiquement à 21 ans, 22 ans, tu peux vraiment dire de la merde. T'es pas formé socialement, tu as encore besoin de tes potes. Tu vis encore chez tes parents. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été retourné chez mes parents après mes études. Mais tu vas dire que tu peux vraiment, à ce moment-là de ton existence, te poser la question, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère avoir une vie paisible, des potes, un cadre social qui est sain et normal, entre guillemets, ou je préfère afficher mes idées? Enfin, parce que les deux entrent en opposition. Si tu affiches tes idées, tu seras pas invité aux soirées. Donc c'est aussi un peu le sacrifice que j'ai fait moi quand j'avais 21 ans ou 22 ans, c'est d'afficher mes idées, d'assumer mes idées, idées que j'assumais déjà dans un cercle privé, mais là j'ai décidé de les assumer au plus grand nombre, les afficher au plus grand nombre, parce que je me suis dit, en vrai, nique sa mère, parce qu'en soi, je les aurais affichées un jour ou l'autre, donc autant que ce soit maintenant sur YouTube et dans un cadre que j'ai choisi en plus, tu vois.
Bien sûr. Mais toi, tu te considères comme un journaliste politique? Donc,
Oui, évidemment. Après, je ne pourrais pas te dire de quel bord, parce qu'en soi, parfois, je dis des trucs qui font chier, mais les gens qu'on pourrait penser de mon camp, tu vois. Là, dans ma vidéo, je crois que c'est la vidéo sortie hier, je fais l'analyse d'un clip de rap de Louis Boyard. Enfin, je sais pas si tu as vu, il y a
oui,
une.
j'ai vu, ouais.
En
Il y
plus,
a pas mal de choses.
j'ai un passif personnel avec Louis Boyard, en plus, parce que
Ah.
j'avais débattu avec lui avant qu'il soit député.
D'accord. Et vous au crayon, j'imagine.
Ouais, c'est ça, sur le crayon, ouais.
Oui.
J'avais débattu avec lui. Enfin, toujours est-il que je sors ce clip-là et dans cette vidéo, je dis, j'espère qu'un jour, il y a des musulmans qui vont taper sur les doigts de ce mec-là qui n'arrête pas de dire Allahu Akbar et Starfoula dans ses vidéos et à qui, à mon avis, les fait passer pour des trous du cul. Je dis ça et dans les commentaires, en mode, non, en vrai, je pense pas, faut pas vouloir ça pour les musulmans et compagnie. Donc, tu vois, parfois, je peux faire des trucs qui vont pas plaire à mon camp. Tu vois, je fais une vidéo sur il est de, tu vois, le conflit ukrainien actuellement. Il a vraiment scindé un peu le camp politique, que ce soit à droite ou à gauche, sur savoir qu'est-ce que tu pensais de ce conflit-là, comment tu analysais ce conflit-là. Tu vois, moi, j'ai tout de suite analysé une supercherie médiatique autour de ce conflit-là, pas parce que je soutiens Poutine, hein, vraiment loin de là. Et pas parce que je soutiens pas l'Ukraine, moi je m'en branle en fait, mais juste j'analyse ça un peu froidement sur pourquoi on en parle, pourquoi on en parle maintenant alors que la guerre dure depuis 2014. J'avais d'ailleurs rencontré à l'époque Anne-Laure Bonnel, hein, qui travaillait sur le conflit arménien, qui maintenant a travaillé sur le conflit dans le Donbass. Enfin, tu vois-t-il que j'ai analysé un peu froidement, et dans ma vidéo sur la Tchétchénie, je tacle Poutine parce que la gestion du conflit tchétchène par Poutine est, à mon sens, abominable. Mais encore une fois, c'est mon avis, et puis ça peut ne pas être partagé, mais à mon sens, elle est abominable. Et dans les commentaires, les gens disaient, mais non, mais tu peux pas dire ça, parce que les gens pensent qu'en disant que Poutine, c'est pas ouf, je soutiens les États-Unis, tu vois. Donc il y a un aspect un peu binaire où le français ne peut pas être neutre. Il faut qu'il soit forcément pour l'un ou pour l'autre. C'est un peu
Justement, comment tu l'expliques ça?
Ben, en fait, c'est parce que je pense qu'on a intériorisé, nous, Français, une mentalité de victime. C'est-à-dire que la France, historiquement parlant, après avoir été le moteur, quelque part, de l'Occident, elle a été prise entre deux feux. C'est-à-dire le feu libéral par son Ouest et le feu socialiste par son Est, avec l'URSS. Et je pense que cette période-là de la guerre froide, même s'il y a eu des grands hommes comme le général de Gaulle, ce contexte-là de la guerre froide a entraîné une réflexion chez les Français, à savoir qui on est. Est-ce qu'on peut être encore un moteur? Et les politiques, depuis, le montrent très bien qu'on ne peut plus être un moteur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'opposer à l'OTAN parce qu'on va nous dire, mais non, mais ça veut dire que tu es pro-russe. Ou inversement, on ne peut pas s'opposer à Poutine parce qu'on veut dire, ça veut dire que tu es pro-américain. Donc les gens n'ont plus conscience que l'histoire de France, c'est justement l'inverse. C'est justement cette capacité à être indépendant de plusieurs blocs, que ce soit le bloc libéral ou le bloc socialiste, et désormais le bloc otanien et le bloc russe. On ne peut pas s'opposer aux deux, on ne peut pas vouloir l'indépendance de la France parce qu'on est trop faible pour l'avoir. Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'on n'est juste plus assez fort et qu'il faut qu'on comprenne que maintenant, on doit se ranger, que ce soit sous l'égide des États-Unis ou sous l'égide de la Russie. Mais les gens n'ont plus conscience ou ne veulent plus comprendre que la France, c'est historiquement l'indépendance justement de ces deux
C'est
blocs.
vrai. C'est la troisième voie, la fameuse troisième
C'est
voie.
la troisième voie. Et puis, c'est comme ça que l'expliquait le général de Gaulle. Et c'est comme ça que la politique étrangère de Gaulle s'est faite, en fait. C'est justement cette troisième voie-là, quasiment une voie qui était... celle que prendraient les États qui étaient non alignés. Bon, alors évidemment, on était dans l'OTAN parce que les liens avec l'Amérique font, les États-Unis font qu'on a, on a intégré l'OTAN assez rapidement, mais si le général de Gaulle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence à intégrer l'OTAN et à faire intervenir des Américains sur le sol français. Mais historiquement, ça, on est ça, en fait, on est indépendant. Et l'histoire de France, c'est l'histoire de l'indépendance par rapport aux puissances qui sont extérieures, qu'elles soient frontalières ou non. Tu vois?
Mais est-ce que c'est ce clivage qui a créé des dissensions, je ne vais pas te trahir de secret, sur Livre noir?
Évidemment, évidemment. On a beaucoup accusé le Livre noir d'être pro-russe. Pour, on va parler franchement, c'était une accusation qui revenait souvent parce que les gens qu'on invitait ou les gens à qui on donnait la parole, ou en tout cas les gens qu'on choisissait de médiatiser, c'était des gens qui étaient ouvertement ou pas pro-russe. Mais en fait, la difficulté, c'est que certes, il y avait des gens qui étaient pro-russes, mais de la même manière qu'un pro-américain doit pouvoir s'exprimer, je pense qu'un pro-russe doit pouvoir s'exprimer aussi. C'est pour ça que je ne comprends pas on y en a peut-être, mais la fermeture de RT, pour moi, c'est une aberration. Pas parce qu'ils sont pro-russes. Je veux dire, qu'ils soient pro-russes, c'est une chose, tant mieux ou tant pis. Mais il faut que les Français aient accès à toutes les informations pour pouvoir choisir ensuite. Parce que là, on compte, je ne sais plus si c'est d'actualité ou pas, mais on compte envoyer quand même des chars Leclerc à l'Ukraine. Je pense que les Français doivent connaître les deux versions du conflit pour pouvoir prendre ce genre de décision, qui ont une décision qu'on appelle en géopolitique de co-belligérance. En fait, quand tu envoies de l'armement à un pays, tu es co-belligérant. Donc, tu t'exposes aux rétorsions, qu'elles soient militaires, économiques ou géopolitiques, du pays que tu combats. C'est comme ça. Donc, si jamais ces Français-là n'ont pas les deux versions du conflit, il n'y en a pas une qui est vraie ou une qui est fausse, mais en tout cas, il faut qu'ils aient les deux. Et au Livre noir, nous, on essaie de donner la parole pour contrebalancer ce qu'on peut appeler la propagande otanesque. Et encore une fois, je ne mets aucun jugement de valeur hein, dans la propagande. Hein. C'est pas, je n'en veux pas à l'OTAN ou aux États-Unis de faire de la propagande. Il n'y a aucune galère avec ça. Ils font ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire que c'est un business. Ils vendent des armes, donc ils ont besoin d'avoir un marché pour vendre des armes. Du coup, ils se créent un ennemi. Il n'y a aucune galère. La Russie fait pareil. La Russie.
Mais est-ce que c'est pas. Alors, pour revenir au journalisme là-dessus, sur Russie-Ukraine, est-ce que c'est pas aussi le public qui fait un peu les sujets que l'on traite? Je vais te dire pourquoi. Parce que il faut savoir que les pro-russes, il faut se dire les choses, c'est eux qui font l'audience. Ah, c'est eux qui font l'audience. C'est pas les pro-Ukraine. Bon, moi, on a invité à Géopolitique Profonde notre ami Patrick Edry. C'est pas lui qui m'a fait l'audience. C'est Jacques Beau. Est-ce que voilà, est-ce qu'on est influencé aussi par les goûts du public?
Évidemment, évidemment, mais je pense que effectivement, les goûts du public ont une réelle importance. Et tu te rends compte lorsque tu regardes ce qu'on appelle la réinformation. Les médias de réinformation font des audiences de malades mentales que les médias du service public ou que des médias subventionnés ne feraient pas. Ça, c'est le premier élément. Mais je pense quand même que les canaux de diffusion d'informations vont entraîner un biais chez les gens. Alors effectivement, derrière, ils se positionneront par rapport à ce biais, mais ce biais initial, ce n'est pas les Français, ou en tout cas, ce n'est pas l'audience qui le crée, tu vois. Vraiment, je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais quand la Russie attaque et envahit l'Ukraine, la pression médiatique qu'il y a autour de ce conflit, elle est monstrueuse. Et ça, ce n'est pas les Français qui le demandent. Tu vois, c'est pas les Français qui ont une demande d'information de ce qui se passe en Ukraine. C'est les chaînes d'information en continu, c'est les médias papiers et ces services publics qui abreuvent le débat public de ce conflit-là. On intime à tout le monde de ce... Et c'est aussi, tout à l'heure, je disais que les Français ont cet esprit binaire de savoir qu'il faut soutenir entre deux camps. C'est un peu pareil sur le conflit israélo-palestinien. Tu peux pas critiquer les deux. Il faut que tu sois forcément pour l'un ou pour l'autre, comme si c'était un match de foot. Enfin, tu vois-t-il que je parlais tout à l'heure de cette binarité-là. Je pense que cette binarité, on la doit aussi, et c'est aussi pour ça que le métier de journaliste est aussi discrédité, c'est que c'est les journalistes qui ont créé ça. Parce que quand tu as un conflit de cette ampleur et de cette complexité-là, qui intervient sur le sol européen, ou en tout cas sur le sol géographique européen, quant à ce conflit-là, et que sur les plateaux TV, au même moment, on te demande de prendre position, parce que c'est ce qu'on demandait à l'époque, hein, et c'est pour ça que Zemmour a été taclé, c'est pour ça que Mélenchon a été taclé, c'est pour ça que Marine Le Pen a été taclée, c'est qu'on demandait aux gens de prendre position. Or, la rationalité voudrait qu'on éduque les gens, qu'on laisse un temps de réflexion et qu'ensuite on leur demande de prendre position, mais qu'on éduque les gens avec l'ensemble des infos. On aurait dû avoir autant des versions russes que des versions ukrainiennes, que des versions non violentes, que des versions belligérantes. Enfin, on aurait dû avoir des Biélorusses sur des plateaux, autant que
Bien
des
sûr.
Ukrainiens, autant que des Américains et compagnie. Là, on n'a eu qu'une version. Et tout à l'heure, tu me disais, tu me parlais du livre noir. Effectivement, le livre noir a une version qui était appuyer qui consistait à appuyer la version russe, pas forcément une version fausse, mais qui était une version qui était
Mais est-ce que
éminemment
ça t'a
juste.
gêné, par exemple?
Ça a pu me gêner. Ça a pu me gêner à certains moments, mais je ne pouvais pas critiquer ça parce que, regarde, je voyais un contenu du livre noir qui pouvait s'apparenter à une proposition pro-russe. Je voyais ça et j'allumais ma radio et je voyais l'inverse. Donc en soi, je me disais, bah, les gens contrebalancent, tu vois, ils entendent un contenu sur YouTube et puis ils allument leur radio ou ils écoutent les infos, ils voient l'inverse. Donc en soi, je me disais que ça contrebalançait, mais c'est sûr que lorsque tu prends juste un média et que tu vois ce qu'ils produisent géopolitiquement parlant, tu te dis, ah, c'est intéressant parce que c'est quand même très orienté. Tout comme on avait reçu l'ambassadeur chinois qui avait fait une proposition de contenu éditorial qui était ouvertement pro-chinoise, c'est son métier. Et qui était de nier l'existence d'un massacre à grande échelle de l'ethnie ouïghour, tu vois. On avait retenu ça, mais parce que nous, l'idée de Livre Noir, c'était quand même de donner la parole à tout le monde, notamment, et c'est là où il y a un problème, mais notamment à ceux à qui on ne donne pas la parole. Donc forcément, quand tu regardes en prenant de la hauteur, tu dis, putain, ils ont interviewé que des mecs bizarres. Non, non, ils ont interviewé que des mecs qui ne sont pas invités ailleurs. Si les gens étaient invités ailleurs, si les pros s'étaient invités ailleurs, Livre Noir n'aurait pas fait ce qu'il a fait, tu vois.
Mais est-ce que tu aurais pu inviter, par exemple, Sergueï Girnov en sachant que ton public ne peut pas le blairer?
Moi, à titre individuel ou quand
À
j'étais
titre
chef de la rédaction?
individuel ou livre noir, ou les deux, voilà.
Bah, évidemment, évidemment. Évidemment, mais parce que déjà, le média Livre Noir, c'était un média, donc il y avait une philosophie de la transmission. Donc effectivement, quand tu veux transmettre, il faut que tu transmettes tout. Sinon, tu biaises les gens. Tu vois, c'est pour ça que dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, quand je fais mes enquêtes, je prends le soin de poser le contexte. Limite, si les gens ne sont pas d'accord avec moi, veulent arrêter la vidéo à ce moment-là, ils arrêtent. Je dis, voici le contexte, voici mon analyse. Je distingue bien les deux. Livre Noir, c'était pareil. C'était en mode, cette personne-là pense ça, c'est ça. Quand on invitait Jade, par exemple, Jade, c'est une transgenre, ça avait fait beaucoup parler à l'époque parce
C'est
que
vrai que c'est un gros risque pour le coup. C'est un
ça,
très
c'était
gros
un gros
risque.
risque parce que notre audience, on savait qu'elle était réticente à ce genre de contenu. Pourtant, on l'a fait. Parce qu'on s'est dit, c'était intéressant. On parle beaucoup des transgenres de manière extérieure. On se dit beaucoup, ah putain, c'est les trans, c'est les woke, c'est les proxy woke. Mais on ne parle jamais directement avec eux. Tu vois? Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et ça nous a été beaucoup reproché. Tu vois? On nous a beaucoup dit, mais
Justement,
non.
comment t'es venue l'idée d'inviter voilà, un transgenre et te dire voilà, même si mon est-ce que tu t'es dit voilà, même si mon public n'aime pas, même si je perds 10 000 abonnés ou 15 000 abonnés, parce que en plus Libre Noir, il y avait comme des actionnaires, et donc j'imagine qu'il y a aussi une demande d'une forme de rentabilité.
Bien sûr, et
Est-ce que
c'est
tu t'es
un le
dit
malheur des
je
médias, ouais.
prends quand même ce risque, c'est pas grave?
Évidemment, évidemment qu'on s'est dit qu'on prenait ce risque, ça a été décidé collectivement, et on était tous collectivement d'accord, parce que, encore une fois, il y avait cette impression que on ne peut pas reprocher au camp d'en face ce qu'on ne fait pas nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux médias Combini, Brut ou ce que vous voulez, s'ils avaient interviewé, s'ils avaient fait un sujet, s'ils avaient fait un sujet sur les mecs de droite sans interviewer un mec de droite, on aurait critiqué. On aurait dit, c'est dégueulasse, parlez aux intéressés. Et ils le font de temps en temps. Tu vois, ils font des sujets sur des mecs de droite ou sur des théories de droite. Ils n'invitent pas de mecs de droite pour en discuter. Donc on critique, tu vois, on dit, c'est pas bien. Mais alors pourquoi nous, dans notre camp, on parle de sujets avec des gens qui ne vivent pas le sujet. Et qui de mieux pour parler de la transidentité qu'une transgenre? Et tu vois dans la vidéo que toute la vidéo, je suis un peu en retrait, en retenue, parce que je me dis, Je ne suis pas d'accord, mais on s'en branle en fait. Là, l'objet de la vidéo, c'était de faire exposer des idées par la principale intéressée. Ou le principal intéressé, ça dépend en quelle année on est. Mais tu sais qu'il fallait qu'une personne qui est directement impliquée par le sujet dont on veut parler puisse s'exprimer. Et je crois que ça a marché, tu vois. Je crois que elle a servi ou desservi assez bien ce qu'elle voulait dire, tu vois, lorsqu'elle dit qu'il y a une déshumanisation des rapports sexuels entre les gens, qu'il y a une fluidité des genres, qu'il y a une espèce de libéralisation absolue de la personne qui n'est plus homme, n'est plus femme, n'est plus français, n'est plus truc. Tu vois, nous en soi, c'est ce qu'on aurait dit. Extérieurement, on aurait dit, bah écoutez, les transgenres veulent déshumaniser les rapports sexuels, veulent libéraliser le corps, mais on l'aurait dit, sauf qu'on ne serait pas, on serait pas intéressé, que si la principale intéressée, ça crédibilise un message qu'on aurait dit par ailleurs, tu vois.
Mais comment ça se passe dans une rédaction quand tu dis, voilà, en tant que chef, tu dis, je vais inviter un transgenre et on va donner la parole à un transgenre. Comment ça se passe?
Ben, ça se passe comme dans chaque entreprise quand une décision un peu difficile doit être prise. C'est-à-dire que on se met autour d'une table, on expose un problème. Donc, le problème étant qu'on voulait faire un sujet sur la transidentité. On expose le problème et ensuite, on dit quelles sont les options qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème-là? On peut faire une vidéo sur le sujet, on peut interviewer un spécialiste sur le sujet, on peut interviewer un psychiatre sur le sujet. On peut interviewer des gens dans la rue sur le sujet ou on peut interviewer une trans. Voilà, c'était les options qui s'offraient à nous. Et tout à l'heure, je parlais du taux de pénétration des idées et je pense que la meilleure manière qu'on avait de présenter, entre guillemets, les dangers de la transidentité, en tout cas de l'idéologie transgenre, c'était pas d'inviter un spécialiste qui nous dit que c'est dangereux. C'était d'inviter une personne directement impliquée par ce sujet-là qui nous montrerait, malgré elle, que son idéologie est dangereuse. Et encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui a été très bien fait. C'est-à-dire que ce qu'elle nous dit, c'est la fin d'un socle commun qu'on a tous, à savoir la différence homme-femme. Elle l'a dit, en fait. Et elle a exposé elle-même les dangers de sa propre idéologie, selon moi. Donc, pour moi, c'est un pari réussi. C'était, je voulais informer les gens sur le danger de la transidentité. Elle l'a très bien fait.
Parce que c'était une demande du public ou c'est toi, tu t'es dit, il
C'était
faut aussi qu'on rentre dans ces sujets sociétaux parce qu'on ne parle jamais des sujets sociétaux.
Alors, il y avait un peu des deux, parce qu'effectivement, moi, j'en reçois beaucoup de messages, et à l'époque, j'en recevais aussi beaucoup de messages sur des sujets potentiels que je pouvais faire. Et effectivement, il y avait ce sujet sur les transgenres qui, à l'époque, il y avait une étude qui avait été rendue publique sur la détransition en Suède. Et ça avait beaucoup marqué les esprits parce qu'on se rendait compte que on commençait à assister aux conséquences de la libéralisation absolue de la psychiatrie dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 6-7 ans qui allaient voir des psychiatres qui étaient parfaitement manipulateurs envers ces enfants-là et qui leur disaient « Mais attends, ce que tu as, c'est absolument pas des questions que tout le monde se pose, c'est parce que tu es transgenre. » Bon, bref. Donc, et ces enfants-là arrivaient un jour à grandir et le bouleversement des hormones qu'ils avaient reçues après un jugement favorable du médecin entraînait ou le suicide ou une grosse remise en question ou une détransition. Donc il y avait ce sujet qui était sur la table et donc ouais, on voulait informer sur l'origine même du truc en fait. On voulait se demander mais alors d'où ça vient, comment ça se crée, comment chez une personne ça se crée, tu vois, c'est cette demande-là et on se rend compte au fur et à mesure de l'entretien qu'en fait il y a un mal-être profond chez un individu. Donc, que ce soit un mal-être social, un mal-être mental, un mal-être parfois psychique ou psychiatrique, il y a un mal-être chez un individu, il y a un constat de mal-être et il y a un mauvais diagnostic de l'origine de ce mal-être. Ça veut dire qu'on va aller voir quelqu'un en disant « je suis pas bien », il va te dire « c'est parce que t'es pas dans le bon corps ». Ce qui est une faute en fait, ce qui est une faute médicale absolue, hein, parce que c'est pas vrai. C'est pas une question de corps, c'est juste une question de gestion de soi, c'est une gestion de stress, c'est une gestion des angoisses, c'est des gens qui sont parfois dépressifs, c'est des gens qui sont parfois. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, c'est que le taux de suicide c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, moi, c'est que le taux de suicide des transgenres, il ne cesse d'augmenter. Comment il peut augmenter alors que la transition est de plus en plus facilitée? C'est pas possible. Normalement, justement, le taux de suicide des transgenres devrait baisser parce qu'ils ont de plus en plus accès aux soins auxquels ils prétendent. Mais en fait, c'est juste parce que le malheur initial pour lequel ils sont venus voir le médecin, bah, il a eu un mauvais diagnostic et du coup, ils sont encore plus malheureux, sauf que maintenant, ils ont fait des choix qui sont irréversibles.
Justement,
Voilà.
c'est très intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu prends des risques sur des sujets, et justement, est-ce que ce milieu de droitard, c'est pas un milieu sur les sujets trop conservateurs? Et c'est peut-être aussi pour ça que peut-être on n'est pas majoritaire encore sur certaines tranches d'âge.
Effectivement, il y a des sujets sur lesquels les gens de droite, les aficionados de la fascosphère ont du mal à évoluer, mais ça reste quand même assez marginal. Moi, je le vois. Moi, par exemple, tu vois, ça m'arrive d'écouter du rap, j'écoute beaucoup de techno, je vais en soirée techno. Je suis vraiment un mec de mon temps et ça gêne pas les gens, tu vois. J'ai jamais eu un message en mode le dégénéré de Georges
Mais
qui fait des
regarde,
vidéos.
par exemple, Groslan, l'ami Groslan que je salue, hein, par exemple, il est dans le rap, il lance son nouvel album, La Héritage 2, qui est pour le coup un excellent album, hein,
Ouais.
que je soutiens. Moi, par exemple, je le vois, il y a constamment les mêmes invités. Alors, bon, il y a l'ami Pierre Gentillet que je salue aussi, ouais, tu vois, mais on voit par exemple que c'est. Bon, il passe sur toutes les chaînes. Tu as toujours les mêmes un peu qui passent sur toutes les chaînes. Moi, par exemple, vendredi, ça, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et moi, vendredi, je vais inviter la numéro 1 des actrices X française qui est en Amérique. Et je me dis, tiens, c'est marrant d'amener quelque chose comme ça parce que
Ah
voilà,
bah de ouf,
en plus,
ah,
c'est une
c'est.
droitarde, pour le coup.
Ouais.
Voilà.
Tu la connais bien?
Pardon?
Tu la connais bien?
Oui, elle me suit sur Twitter, elle me retweet, donc je me dis, tiens, bon, c'est
Attends,
marrant, quoi,
mais
tu
attends, c'est
vois.
marrant parce qu'il me semble qu'elle me suit aussi sur Twitter.
De qui tu penses?
Je vais essayer, ce serait très très drôle parce que justement, moi je pensais que c'était un faux compte.
Non, c'est un vrai compte. J'ai eu la fille au téléphone, on s'est eu au téléphone, sur WhatsApp, et c'est un vrai compte, justement, pour le
Ah,
coup.
c'est génial parce que du coup, je me suis vraiment dit, waouh, ils sont forts, ces faux comptes à me suivre. C'est Cassie Del Isla?
C'est ça, c'est elle.
Oh là là là, ouais,
Et
d'accord.
voilà. Et quand même, elle
Ok.
est en plus sacrément jolie, hein. Donc, sachez les gars
Moi,
que
j'ai
elle
pas regardé les
sera.
photos, je suis resté sur le message politique.
Donc, sachez. Ouais, bien sûr. Évidemment. Sachez que cette fille-là sera vendredi à 17h sur Géopolitique Profonde. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a toujours le même panel invité, on a toujours les mêmes gens qui disent toujours la même chose, les mêmes sujets, et on ne sort jamais de, par exemple, de immigration, et libéralisme économique.
Bien
Voilà,
sûr.
voilà, on ne prend pas assez de risques, je trouve.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est parce que comment? Parce que déjà, ceux qui prennent des risques sont parfois assez mal vus. Tu vois, quand on a fait l'interview du transgenre, notamment, on s'est fait pas mal allumer. Parce que aussi, on est assez peu, en fait. Donc, par définition, quand tu es peu à être sur un créneau. Bah, tu as moins d'inventivité parce que tu réponds juste aux aspirations de ce que veulent ton public. T'as pas ce panel que peuvent avoir les gens de gauche ou progressistes d'avoir, je sais pas, 100 ou 200 mecs qui sont sur le même créneau, donc ils peuvent avoir chacun un avis différent ou chacun une approche différente, qu'elle soit musicale, de production, de ton, tu vois. Il y a une approche qui est différente parce qu'ils sont beaucoup. Nous, on est très peu, donc je pense que ce qui manque aujourd'hui à la droite, c'est. Une forme de structure, en fait, un truc qui est structurant et qui permettrait de faire émerger plein de nouveaux talents. Et ensuite, ces nouveaux talents auraient leur propre vision, leur propre message, leur propre personnification de leur message. Soit, il y aurait toute cette effervescence d'idées qui manque aujourd'hui actuellement, mais c'est parce qu'on est très peu, en fait, les influenceurs de droite, ça se compte sur les doigts de la main.
Mais quel
Tu vois?
serait, par exemple, l'invité que tu aimerais avoir et totalement détonnant, dont ton public se dirait, putain, c'est pas possible, il a pris la personne. Hein.
Moi, c'est l'humoriste Kemar. Je ne sais pas
Ah,
si
je vois
tu
pas qui
connais.
c'est.
Ouais, bah, alors lui, pour moi, c'est un des mecs. Lui et Jonathan Cohen, pour moi, c'est les deux mecs les plus drôles de France. Je pense que c'est les deux mecs qui, à mon avis, détonneraient le plus sur ma chaîne. Qui sont, je crois, par ailleurs, des gens qui sont marqués à gauche ou assez à gauche.
Oui.
Mais arriver à discuter, pas forcément de la politique, mais de leur compréhension du réel, de leur expérience économique, je pense que ce serait des trucs qui seraient assez forts.
Alors, sur ta chaîne, tu fais bon, des face caméra surtout.
Ouais.
Est-ce que tu vas amener de nouveaux concepts? Est-ce qu'il y aura une évolution sur ta chaîne, la chaîne de Georges?
Ouais, alors, dès lors que je passerai les 100 000 abonnés, que j'espère passer assez vite, il nous manque, je crois qu'il nous manque 12, non, il nous manque 11 000 abonnés pour arriver aux 100 000. Quand je passerai les 100 000 abonnés, je vais commencer à faire des entretiens, justement sur des thèmes, pas forcément politiques, mais sur des thèmes. En fait, ce que je voulais faire, c'était des entretiens avec des. En fait, faire une espèce d'inversion des valeurs médiatiques, à savoir prendre des invités qui sont éminemment politiques et leur parler pendant 1 heure d'un sujet qui ne l'est pas. Donc prendre, je ne sais pas, des Bardella, des Zemmour, des Le Pen ou de ce que tu veux, et leur parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la politique. Donc de leur enfance, de leurs premiers amours, comment ils gèrent l'éducation de leur enfant et compagnie, pour avoir une espèce d'aperçu personnifié de la personne et inversement. Prendre des gens qui n'ont absolument pas un background politique ou qui ne sont pas connus pour ça et leur parler justement de politique ou de métapolitique, de transmission de valeurs. Enfin, c'était un peu l'idée que je voulais, des interviews un peu décalées comme ça. Il y aura ça. Ensuite, moi, je vais faire des vidéos avec. Du coup, je t'avais dit en début d'entretien que j'avais des amis qui étaient au quartier. Je vais aller là-bas et on va s'asseoir autour d'une table devant le quartier. On va discuter politique. En fleuve, tu vois, genre en mode qu'est-ce que vous pensez de ça, ce phénomène-là. En fait, pour avoir un peu un avis des mecs duquel on parle beaucoup aux médias, mais qui ont assez rarement l'occasion de s'exprimer, si ce n'est d'être caricaturé par des Rocca Diallo ou des Boyard ou des Corbière qui n'y connaissent rien, en fait, qui n'ont jamais grandi au quartier, ils n'ont jamais foutu les pieds là-bas, juste ils allaient acheter leur bœuf là-bas, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans ces quartiers-là. Moi, j'aimerais bien les faire parler, ces gens-là, leur dire, putain, on parle en ton nom, qu'est-ce que toi, tu as à dire, en fait? Ça, c'est
Et
le deuxième élément.
c'est quel profil de gens?
C'est des mecs issus de l'immigration. Alors, mon pote à moi, il est informaticien. Mais il y a de tout. Hein. J'ai même, c'est un truc un peu marrant, j'ai même appris qu'un des mecs avec qui je faisais du foot est désormais en sélection nationale
D'accord, c'est qui?
algérienne.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Omar quelque chose. Je te retrouverai le nom. Mais tu vois, c'est marrant en fait de voir les évolutions. Les évolutions. Oui, en fait, il y a de tout. C'est des profils un peu hétéroclites. Mais oui, du coup, ça, c'est un deuxième concept que j'aimerais bien lancer. Et puis, évidemment, moi, je vais me lancer à fond dans les sketchs. Parce que je trouve que c'est un truc qui manque de ouf à droite. C'est juste des
L'humour.
trucs drôles, quoi. Ouais, l'humour. Putain, arriver, faire des sketchs. Je trouve que c'est tellement perforant comme message politique quand tu le dis avec humour. Tu vois, je prends toujours l'exemple du bagel, du studio bagel, qui arrive à avoir une apparence très dépolitisée, hein, parce qu'on pourrait se dire au premier abord que c'est une boîte de communication, de prod qui est assez dépolitisée, assez neutre. Et puis en fait, quand tu regardes en sous-jacent, tu as un message politique qui est très fort, qui est de l'anticonservatisme, qui est. Ils ont fait un sketch notamment pour expliquer que ils ont fait un sketch sur le complotisme où ils mélangent les reptiliens avec les chemtrails, avec les antivax, avec le grand remplacement. Ils mélangent tout ça pour essayer de faire dire à un complotiste que le complotisme, c'est tout ça. Donc c'est un message qui est politique, hein, c'est de dire vous ne pouvez pas être complotiste parce que sinon vous êtes con.
On a vu le sondage de l'Institut, merde, je ne me rappelle plus, enfin, qui était sur BFM, où d'ailleurs, dans l'une des questions, c'était je ne sais pas combien de pourcents de jeunes pensent en gros que l'homme a été créé par Dieu.
Ouais,
Voilà.
voilà, c'est
Et
ça.
donc,
Donc,
on te met ça, en gros, si tu es croyant, ça veut dire que tu crois que la Terre est plate, des choses comme ça, quoi.
mais voilà, c'est ça. C'est en fait, et ces biais-là, je pense que l'ouverture par l'humour est absolument dingue. C'est-à-dire que non content d'avoir un message politique, tu as une ridiculisation de l'opposition politique. C'est-à-dire que l'opposition politique n'a pas seulement tort, elle est conne. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand tu fais dire, hein, je reprends l'exemple du bagel, mais quand tu fais dire à un complotiste que s'il croit au grand remplacement, c'est qu'il croit au reptilien, je ne sais pas si tu imagines quelqu'un qui est conscient du grand, ou alors quelqu'un qui est anti-vax, pour des raisons qui lui sont propres, hein, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il l'est. S'il voit un sketch où Sa pensée politique est réduite au fait de penser que la reine d'Angleterre est reptilien. Tu vois et ça, c'est vu par 1 million de personnes, parce qu'il y avait Yvick dans le sketch notamment, mais c'est vu par 1 million de personnes. Donc, tu te rends compte de la force de persuasion de ce genre de message, surtout qu'il y a un biais de respectabilité, puisqu'on fait intervenir des youtubeurs qui ont un capital sympathie énorme. Je pense notamment à Mister V, qui lui campe le rôle du complotiste. Tu vois, donc
Et alors du
c'est
coup,
gros. Ouais.
j'imagine que tu vas faire tu vas avoir des collaborations avec les uns et les
Ouais.
autres.
Ouais, bah on va essayer justement. Alors, dans notre milieu, c'est assez facile parce que Geoffroy le jeune est quelqu'un qui joue objectivement très bien. Hein. C'est assez incroyable, qui a un vrai talent d'acteur. Mais il y en a plein d'autres. On sous-estime beaucoup l'acting à droite, mais en fait, on est très bon là-dedans, quoi. On sait très bien. Peut-être que parce que dans nos milieux respectifs, on joue le rôle d'un mec de gauche, mais on est très fort à être acteur, à être drôle, à faire de la dérision, à être un peu absurde. On est très bon là-dedans. Donc, je pense qu'on a vraiment un créneau à prendre aussi, tu vois.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir?
De manière un peu prétentieuse, je dirais que j'arrive aux 100 000 abonnés.
Voilà, bah,
Voilà,
abonnez-vous, hein, la chaîne de Georges.
c'est ça. Et sinon, non, que je continue mon petit bout de chemin avec les belles rencontres que je fais au quotidien. C'est tout ce que je pense qu'on peut me souhaiter, et que l'avenir soit radieux, parce que je pense qu'il le sera. Je suis pas défaitiste. Je suis pas. Il y a un certain courant à droite qui voudrait que tout soit perdu et qu'il faut retourner un peu à cet état très égoïste de moi et moi seul, et puis le reste on s'en bat les couilles parce qu'on a déjà donné. Moi je pense pas, je pense qu'il faut encore, et qu'on a la chance de faire partie d'une génération qui va voir des changements politiques, qu'ils soient bons ou mauvais, il va les voir, il va être acteur de ces changements politiques. Et ça, je pense que c'est une chance qu'on a sur les générations qui nous ont précédés.
Merci beaucoup, cher Georges. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site Géopolitique Profonde. Il y a des vidéos gratuites pour se débancariser. Voilà, nous, c'est notre credo. Il faut se débancariser. On est aussi un site économique. Donc, allez-y, débancarisez-vous, hein. Les vidéos gratuites, voilà, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Merci à toi, en tout cas, de cette 1 heure et demie d'entretien passé ensemble. C'était vraiment très sympa pour le coup.
Ouais, merci beaucoup, ouais,
Passez
merci à toi,
tous
Mike.
une excellente soirée. Jeudi soir, Olivier Piacentini, économiste, on va parler du Forum économique mondial. Et d'abord, voilà, 17h, vendredi, avec Cassie Delisla.
Moi, je serai là, hein. Moi, je serai là, hein. Je te le dis direct.
Tu seras là, oh, très bien.
Ouais.
On va parler politique avec elle, parce qu'elle est fan de Zemmour, pour le coup. On va parler du monde du porno. Et OnlyFans où elle est millionnaire. Voilà. Bon. Allez, passez tous une bonne soirée. Salut, ciao.
Salut, ciao.